Vous écoutez Radio Aramigo.
Restez sur Arengo, vous allez suivre maintenant la chronique L'Actu Tiède de Luc Van Lerberg.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 28 juin, il est 18h, vous êtes avec nous en direct de l'émission de Luc Van Lerberg, L'Actu Tiède sur Arengo. Bonjour Luc.
Bonjour Armel et bonjour à tous et à toutes.
Ah oui, il ne faut pas oublier, comment tu vas ?
Eh bien très bien, il fait beau, les oiseaux chantent, c'est bientôt l'été.
Non, c'est l'été, c'est déjà l'été.
C'est l'été, oui, pardon.
Oui, c'est oui, ça y est, on est passé le 21 juin, c'est bon, c'est l'été.
C'est donc bientôt les vacances, c'est ça qu'il faut se dire.
Voilà, exactement. Et alors, nous allons fêter ça avec une émission un peu particulière aujourd'hui. En tout cas, pas coutume de le faire, de la faire, comme cela. Mais par contre, ce serait intéressant qu'on puisse, dès septembre, dès la reprise des émissions, qu'on puisse les reprogrammer dans ce sens, parce que c'est assez sympa, tu vas voir. J'ai 6 personnes qui m'ont enregistré des questions pour toi. Alors, ce que je te propose, c'est de les écouter, et au fur et à mesure, si tu peux, on va y répondre. Enfin, tu vas y répondre.
Si je peux, allons-y.
Ça marche. Allez, c'est parti. Alors, une première question de Barbara. Luc, je te la fais écouter.
Bonjour Luc, voici ma question. À quoi pourrait ressembler la coexistence entre les humains et les machines intelligentes dans le futur? Et quels sont les scénarios envisageables, tant du point de vue des opportunités que des risques potentiels? C'était 2 questions en une, mais je vous remercie d'y répondre. Au revoir.
Alors Luc.
Oui, effectivement, il y a 2 questions en une seule. On va essayer de les reprendre dans l'ordre. À quoi pourrait ressembler d'abord la coexistence ou la collaboration entre humains et machines, si j'ai bien entendu? Bon, il n'y a pas besoin de parler dans le futur. En réalité, on peut parler dans le présent. On est déjà dans cette cohabitation. Je rappelle que notre téléphone, nos ordinateurs sont bardés d'intelligence artificielle. La question de l'avenir, c'est peut-être la question des véhicules autonomes, effectivement, qui risque de se poser. Alors, à quoi pourrait ressembler notre quotidien? Finalement, je pense que ça va pas changer grand-chose à ce qu'on connaît peut-être aujourd'hui. Simplement, il y aura un peu plus d'automatisation et un peu plus de tâches qui se feront seules, comme conduire. Peut-être que on ne passera plus le permis dans 20 ou 30 ou 40 ans parce que les techniques et technologies permettront d'être véhiculés sans avoir besoin de conduire soi-même ou même sans besoin de chauffeur. Voilà, alors les scénarios envisageables, les risques et au-delà des risques, les potentiels de tout ça sont aussi nombreux que le voudront les idéologies politiques qui accompagneront les évolutions techniques et technologiques. On peut imaginer des mondes demain dans lesquels, un petit peu comme le film Wall-E, je fais souvent référence à ce film-là qui est excellent de Walt Disney, dans lesquels finalement on n'aura plus besoin de travailler et les machines feront pour nous tellement de choses qu'elles deviendront nos esclaves et que ce faisant, il faudra peut-être réinventer la façon dont on remplit nos journées, ce qui, à mon sens, est plutôt pas mal, mais évidemment pas dans le sens du film Wall-E, où là, on deviendrait de simples consommateurs et donc finalement spectateurs de notre vie au lieu d'en être acteurs. Mais on peut aussi imaginer finalement des mondes dans lesquels certes les machines et l'intelligence artificielle viennent nous aider à faire beaucoup de choses et notamment conquérir de nouveaux espaces, de nouveaux territoires. Et dans ce cas-là, on n'est plus spectateur mais on devient acteur de quelque chose. On peut imaginer que le Christophe Colomb de demain est en train de naître aujourd'hui et grâce à l'intelligence artificielle et aux avancées techniques et technologiques sera celui qui découvrira de nouvelles planètes, de nouvelles exoplanètes, permettra peut-être à l'homme de quitter la Terre momentanément ou durablement pour conquérir de nouveaux mondes. Voilà, donc on peut à la fois avoir beaucoup d'espoir et rejoindre la science-fiction positive, mais on peut aussi craindre l'utilisation de ces techniques et technologies. C'est presque une question de choix, je dirais. Je ne sais pas si je réponds complètement à la question, mais j'essaye en tout cas en direct d'y répondre.
Non, ça me paraît assez complet. On remercie Barbara pour sa question. Si elle en a d'autres, elle pourra toujours te les reposer de toute façon.
Hein. Bien sûr.
On passe à la deuxième question, Luc.
Allons-y.
Alors là, c'est Irène qui te pose une question. On l'écoute.
Bonjour Buc, voici ma question. Quels sont les défis philosophiques posés par l'intelligence artificielle, notamment en ce qui concerne la conscience, l'autonomie et la responsabilité morale des machines intelligentes? Merci pour votre réponse. Au revoir.
Je te laisse donc la parole, Luc.
Bon, merci Irène pour cette question, qui est une vraie question, qui est même une question fondamentale. Alors, le défi philosophique qui concerne la question de la conscience, c'est pas un défi de demain, hein. En réalité, on s'interroge sur ce qu'est la conscience depuis longtemps, donc ça ne changera pas. On se pose la question de la conscience, bien sûr, chez l'homme, mais aussi chez les animaux, et on peut se poser la question, du coup, de la conscience de soi sur les IA. Alors, il y a déjà eu un premier incident, où on va appeler ça un incident, sur une IA, l'IA de Google, me semble-t-il, puisque l'un des développeurs de l'IA, après plusieurs tests et interrogations, a parti en fait avec des enregistrements dans lesquels l'IA semble faire montre d'une forme de conscience, en exposant le fait qu'elle pourrait être triste si demain elle mourait, ce qui est évidemment a priori un premier signe, mais c'est pas parce que l'IA l'exprime comme ça que c'est une réalité, puisque l'IA travaille sur des bases de données, fabrique des mots, et elle pourrait tout à fait imiter soit des textes de sa base de données, soit des enregistrements de sa base de données, pour répondre à une question, sans pour autant qu'il y ait de réelle conscience derrière. Donc, le vrai défi, c'est comment définit-on la conscience et comment va-t-on prouver ou pourrait-on prouver qu'il y a conscience sur une machine entièrement créée par l'homme. On peut faire un parallèle avec les questionnements sur la conscience des animaux. Alors, il y a un certain nombre de tests qui peuvent être faits pour les animaux. J'en reprendrai deux très simples. Le premier est sur la question du miroir, le test du miroir, c'est-à-dire que on met un miroir devant un animal et on regarde si l'animal se rend compte de son propre reflet dans le miroir. Alors, la plupart des animaux ne s'en rendent pas compte et ont même l'impression qu'il s'agit d'un ennemi ou d'un congénère en face d'eux et ils vont réagir en fonction. On a l'image, tous probablement sur Internet, on peut retrouver ça sur YouTube, de chiens qui se voient dans le miroir et qui vont commencer à aboyer, ou même de félins qui vont commencer à attaquer le miroir parce qu'ils auront l'impression d'avoir un congénère en face d'eux. Il y a quelques animaux dont on peut prouver qu'ils se reconnaissent dans le miroir, qui reconnaissent leur propre image, donc a priori leur propre être, ce qui pourrait être considéré comme un début de conscience. La plupart des scientifiques semblent écarter ce test. Un autre test est la question du langage spontané, qui a été réalisé notamment sur des grands singes. Les singes ne parlent pas, hein, c'est une question de palais d'ailleurs. Ils ont des cordes vocales comme nous, mais leur palais leur empêche d'avoir un langage réel. Et donc, on a appris à des grands singes le langage des signes, puisque là, les singes peuvent le reproduire, alors bien sûr adapté. Et toute la question, ça a été de savoir si les singes utilisaient le langage des signes par réponse à un stimulus, ou s'il utilisait le langage des signes par une véritable pensée propre, voire même s'ils étaient en capacité d'émettre des émotions par le langage des signes. Quand je parle de langage stimulé, on comprend bien que si je dresse mon chien, je peux, grâce à des signes, lui indiquer quand manger, quand aller se promener, etc. Le chien va répondre, va avoir une réponse, mais une réponse stimulée. Et à partir de là, on ne peut pas dire qu'il y a conscience. On est juste sur de l'apprentissage, comme on pourrait apprendre un robot un certain langage, et puis le robot va, de façon stimulée, répondre à ça. Alors, j'ai connaissance d'une très vieille étude où un singe qui était en test commençait un petit peu à déprimer, et les soigneurs avaient décidé d'introduire dans la cage un chat pour lui donner une compagnie. Il se trouve qu'il y a eu un accident, c'est-à-dire que le chat est mort dans des conditions X ou Y, peu importe, et le singe aurait, je mets du conditionnel, mais il me semble qu'il y a des vidéos donc avec des preuves, aurait transmis à plusieurs reprises au soigneur sa tristesse face à la disparition du chat et aurait même dessiné la mort du chat. Donc bon, à partir de là, on est sur une forme d'expression d'un langage, qui est l'expression d'émotion, qui est formulée par un langage, et donc on peut en déduire une forme de conscience. qui n'est pas la conscience de soi que nous avons nous. Alors ça, c'est un sujet complexe, hein, donc il faudrait des émissions complètes pour ça. Est-ce que demain, les intelligences artificielles seront capables de ça? La réponse aujourd'hui, elle est pour l'instant non. Je rappelle que les intelligences artificielles, ce qu'on appelle intelligence artificielle, ce sont simplement des bases de données auxquelles on attache un logiciel ou des structurations de logiciels qui vont permettre d'auto-apprendre, c'est le machine learning, et donc d'optimiser leurs réponses, soit par le langage, soit par le dessin, soit par le traitement de données mathématiques, etc. Mais on est très très loin de ce qu'on pourrait trouver dans la science-fiction avec un humanoïde et à la place du cerveau, un ordinateur, et donc une structure intelligente, au sens humain du terme, capable d'exprimer sa pensée, ses émotions, etc., c'est-à-dire un duplicata de l'homme, mais au niveau machine. Ça, on en est extrêmement loin. Quand je dis extrêmement loin, c'est que c'est pas dans les 10 ou 20 ans, dans les projections, on parle de, peut-être de centaines, voire même peut-être qu'on n'y arrivera jamais. En tout cas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Dans intelligence artificielle, c'est vrai qu'il y a le mot intelligence, mais intelligence n'est pas synonyme de conscience. On parle d'intelligence parce que ce sont des logiciels qui vont être capables d'auto-apprendre pour optimiser le traitement des bases à partir desquelles ils travaillent. Voilà, donc ce débat, s'il a lieu, il aura lieu dans longtemps, mais j'aime bien toujours faire un rappel de l'histoire. Peut-être qu'on trouvera dans ce débat les mêmes questionnements et les mêmes arguments que l'on a eus lors du procès de Valladolid, pour ceux qui aiment l'histoire. C'est le procès qui, en Espagne, a posé la question de la conscience des indigènes américains au moment où les occidentaux, portugais, espagnols, français, anglais, étaient en train de conquérir l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, et avec la question, est-ce que les indigènes ont une conscience, oui ou non, avec en toile de fond la question de s'ils ont une conscience, est-ce qu'on les convertit à la religion chrétienne. Bref, donc si le questionnement de la conscience dans la machine vous intéresse, eh ben, on peut se reporter à ce moment de l'histoire parce qu'on y trouve beaucoup d'arguments, de contre-arguments, parfois stupides, en tout cas qu'on pourrait trouver stupides aujourd'hui, mais qui ont été émis à cette époque-là, et je gage que probablement on aura les mêmes questionnements, certains intelligences, d'autres stupides, au moment où on se posera la question de la conscience dans la machine. Voilà. Je ne sais pas si je réponds, j'ai répondu de façon un peu décousue, mais peut-être qu'il y a dans les éléments de réponse que je donne des sources sur lesquelles vous pouvez réfléchir ou vous renseigner.
Mais c'est vrai, Luc, que nos auditeurs nous ont posé tous les 6 des questions extrêmement intéressantes qui, comme tu l'as dit, pourraient faire l'objet de plusieurs heures d'émission. C'est très compliqué pour toi de répondre en peu de temps, ça j'avoue. C'est pas
alors,
ça.
En peu de temps et à la cantonade, parce que je découvre vos questions et donc c'est pas évident d'y répondre du tac au tac.
Voilà. Et oui, c'était le but du jeu. C'était ton défi d'aujourd'hui, Luc.
Parfait.
Alors, on passe à la question de Jean-Paul, tu veux bien?
Allons-y.
On y va, on l'écoute.
Bonjour Luc. Quels sont les impacts de l'intelligence artificielle sur le marché du travail et de l'emploi? Comment pouvons-nous préparer la société à ces changements et garantir une transition équitable pour les travailleurs? Merci beaucoup Luc de votre réponse et merci pour vos émissions qui sont toujours très très agréables à écouter, intelligentes et pertinentes. À bientôt.
Alors, merci Jean-Paul pour cette question fondamentale. Alors, on a déjà, pour répondre sur la question de l'impact de l'IA sur le marché du travail, on a déjà des éléments de réponse, on a des études qui sont faites. Aucune réponse aujourd'hui n'est ferme. On ne fait que se projeter dans un futur possible. En tout cas, l'OCDE, en 2019, a fourni une étude assez complète, ou en tout cas assez étayée, qui tente à montrer que l'IA risque de créer la disparition environ de 14% des emplois dans les pays de l'OCDE. La France, elle serait touchée également, un peu plus d'ailleurs que les autres, semble-t-il. Quand on parle de destruction d'emplois, je ne suis pas en train de prédire une catastrophe économique dans laquelle on va perdre 14 à 20% de nos emplois, donc il y aura 14 à 20% de chômeurs. Non. En fait, comme lors de la révolution industrielle et comme lors de la révolution informatique, il y a des métiers qui vont disparaître, donc des emplois qui vont disparaître, mais d'autres qui seront créés. Et la plupart des emplois seront impactés par l'intelligence artificielle et donc changeront de nature en raison de l'impact de l'intelligence artificielle. En fait, on considère qu'un emploi va disparaître à partir du moment où 70% des tâches qui le composent pourront être utilisées ou gérées par une intelligence artificielle. Et en dessous de ces 70%, on va considérer que l'emploi va simplement changer de nature, va changer de la personne qui occupe l'emploi, son quotidien va un petit peu être modifié. Mais ça veut dire aussi que si on utilise l'IA, elle est aidée. Alors, où y aura-t-il le plus de changements? Dans tous les métiers automatisés, où l'intelligence artificielle peut gérer des tâches simples. Ce qui est nouveau, c'est que par rapport à la révolution industrielle, c'est que lors de la révolution industrielle, c'était les métiers de manufacture, finalement, d'industrie, d'usine, qui étaient directement impactés en raison du développement de la machine et puis ensuite de la robotique. Ici, avec l'IA, l'impact, il va être sur certains métiers qu'on va appeler métiers en col blanc, c'est-à-dire les métiers de cadre ou d'agent de maîtrise. J'ai parlé lors de ma dernière émission éventuellement de l'avocat. Oui, les avocats peuvent être touchés ou les métiers du droit peuvent être touchés parce que le droit, c'est un code, c'est plusieurs codes. Donc, on parle en fait d'une base de données. Donc, est-ce qu'une machine est capable de mieux ingurgiter et retranscrire les codes, est capable d'utiliser d'autres bases de données pour créer des contrats, créer des règlements, etc. La réponse est oui, évidemment. Est-ce que ça fera disparaître totalement le métier? Non, ça va le transformer. C'est-à-dire qu'à la place de rédiger, l'avocat sera plus en contrôle, sera plus en conseil, voire en conflit, donc en contentieux. Donc le métier ne va pas disparaître, il va changer de nature, sa composante va être un peu modifiée. On a parlé également lors de nos dernières émissions du métier d'écrivain. Oui, certains écrivains aujourd'hui vont perdre leur emploi. Je pense notamment aux jeux vidéo. Il y a aujourd'hui des écrivains qui sont utilisés, dont l'emploi est de créer des lignes de texte pour ce qu'on appelle des PNJ, c'est-à-dire des personnages dans un jeu vidéo qui parlent dans le jeu vidéo, donc pour interagir avec le joueur. Bon, ces lignes de texte, aujourd'hui, on a des intelligences artificielles, notamment Ubisoft a développé une intelligence artificielle qui permet, entre guillemets, de se passer des écrivains, et à la place d'avoir 10 écrivains, ils vont en utiliser que 3, parce que, en fait, les lignes de texte vont être un peu automatisées, et donc, on n'a plus besoin, en fait, de cette forme-là d'aide. Est-ce que ça veut dire que le métier d'écrivain va disparaître? Non, évidemment. Toute l'originalité de l'écrivain, qui est d'aller là où les autres n'ont pas été, de créer quelque chose dit d'original, aujourd'hui, les IA ne sont pas capables de le faire. Les IA vont remplacer là où il y a automatisation possible, en tout cas aujourd'hui. Est-ce que demain ce sera le cas? Peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce n'est pas le sujet du jour. Les intelligences artificielles aujourd'hui ne sont pas encore capables réellement de créer une œuvre complète, parfaitement originale. Aujourd'hui, elles font des copies. Donc oui, un certain nombre de métiers vont disparaître comme ça, mais ce n'est pas grave, ils vont se réinventer, et puis on va en créer d'autres. Plus il y a d'IA, plus il faut de nouveaux métiers, de nouveaux ingénieurs pour alimenter l'IA correctement, donc ça c'est des nouveaux métiers qui se créent, pour traduire, utiliser correctement l'IA à bon escient, c'est là aussi de nouveaux métiers. Donc étrangement, l'IA va permettre l'essor et l'évolution de nouveaux métiers, plus d'analystes, d'accompagnants finalement de l'utilisation de ces outils. Et l'IA va aussi, peut-être, dans certains métiers, pas changer complètement de métier, mais simplement permettre à quelqu'un qui occupe un job d'occuper moins de temps sur certaines tâches et plus sur d'autres. Je vais prendre mon cas pour illustrer la chose. Aujourd'hui, je travaille dans les ressources humaines, j'ai un cabinet, je fais du recrutement, je fais de l'accompagnement stratégique auprès des entreprises. J'utilise l'IA. J'utilise l'IA à la fois sur les bases de données de candidature et j'utilise l'IA pour rédiger un certain nombre de choses, par exemple une annonce ou un compte-rendu, des choses comme ça. Bon. Donc, hier, sur une semaine, je pouvais passer 2 jours de mon temps à la rédaction et peut-être aussi à l'étude de CV, peut-être plus poussée. Aujourd'hui, l'IA me permet de réduire ce temps à moins de 3 heures par semaine. et donc de consacrer plus de temps à quoi ? Bah aux entretiens, donc à la rencontre humaine. De consacrer plus de temps à quoi ? Bah au conseil auprès de mes clients, au conseil aussi auprès des candidats. Donc, c'est un changement dans les différentes tâches de mon métier, et ce changement, pour moi, est beaucoup plus positif. C'est-à-dire que je perds moins de temps sur des choses finalement chronophages et répétitives, et un peu casse-pied à faire, pour être plus dans autre chose, et cette autre chose est sans doute intellectuellement plus intéressante et plus productive de richesse. Donc, vous voyez, ça, c'est typiquement un exemple hyper positif, en fait, de modification. Finalement, quand on regarde l'histoire, la révolution industrielle n'a pas fait disparaître l'artisanat. Au contraire, la révolution industrielle n'a pas fait disparaître les ouvriers dans les usines. Au contraire, sauf qu'à la place d'avoir des gens qui visent 200 fois le même boulon dans la journée, c'est une machine qui le fait, et on a un humain à côté de la machine qui contrôle. Alors, il y a moins d'humains à côté de la machine, c'est vrai, mais quand on regarde l'usine, il y a d'autres humains qui font d'autres choses. Et vous allez me dire, oui, mais il y avait 40 000 ouvriers chez Renault dans les années 70, là où aujourd'hui ils sont peut-être 2 ou 3 000, c'est vrai. Sauf que les PME, TPE, conseillers qui gravitent autour de l'usine sont bien plus nombreux qu'auparavant. Donc au final, vous le savez, hein, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, et je crois en une loi de la nature, rien ne disparaît, tout se transforme, et donc je pense que les emplois vont subir exactement le même mouvement. Bien sûr qu'il y aura des disparitions, mais ce seront des disparitions qui, dans le temps, vont permettre des transformations d'emplois. Donc, ça, c'est une première réponse. Après, il y avait la question de l'équitabilité. Est-ce qu'on va vers plus d'emplois équitables ? J'en sais rien du tout, là, pour le coup. Je ne peux pas faire une analyse aujourd'hui de ce qui se passera demain. Le champ du changement est tellement vaste qu'il faut attendre que ça se stabilise un petit peu pour avoir une vision juste. Mais je pense quand même qu'à partir du moment où la machine à éviter à l'homme des tas de tâches difficiles physiquement. L'IA va permettre aussi de régler un certain nombre de tâches et va permettre d'enlever une part chronophage de certains emplois. Bah, peut-être qu'on peut imaginer que c'est pour le mieux et que ça permettra effectivement d'avoir des journées peut-être moins chargées, où on ira vers un monde de l'emploi où il y aura peut-être moins de stress, un petit peu moins de burn-out ou de choses comme ça.
C'est tout ce que je souhaite. Si ça, si on peut en arriver là, ce serait vraiment génial.
Bah, en fait, quand on regarde quand même l'histoire de l'humanité, il y a des périodes où on a beaucoup moins travaillé qu'aujourd'hui. On le sait pas ou on le sait peu, hein, mais la période romaine, les premières vies dans les cités, on travaillait peu finalement parce qu'on suivait le lever du soleil, le coucher du soleil. Il n'y avait pas nécessité de produire énormément. Finalement, un fermier produisait pour une centaine de personnes et ça suffisait largement, il n'avait pas besoin de travailler énormément. Et donc il y a eu des périodes quand même dans l'histoire, alors, hors situation de guerre, où il faisait bon vivre et où même on vivait assez longtemps. Bon. Il n'empêche que depuis la révolution industrielle, finalement on a plus travaillé parfois au démarrage, mais on travaille moins aujourd'hui qu'on travaillait au démarrage de la révolution industrielle. C'est d'ailleurs pourquoi on est passé à 35 heures. Alors ça a créé beaucoup plus de stress dans beaucoup d'emplois, et peut-être que l'intelligence artificielle va permettre de réajuster ça et peut-être enlever un petit peu une partie de ce stress-là, parce que l'intelligence artificielle permet de prévoir un peu plus les choses, de mieux calibrer l'organisation d'un certain nombre de choses. Et donc, moins de stress égale peut-être mieux vivre son emploi. Et voilà. Alors, je ne sais pas si c'est une réponse complète, mais en tout cas, moi, j'ai espoir qu'il y ait un demain plutôt positif à ce niveau-là.
Eh bien, nous verrons bien, mais je suis confiante pour ma part. Merci Luc de cette réponse à Jean-Paul. On écoute Marité, tu veux bien ?
Alors, on va écouter Marité.
C'est parti.
Bonjour Luc. Tout d'abord, merci de nous laisser la parole dans votre émission. Ça me fait vraiment très plaisir, je la suis régulièrement et je vous remercie de toutes les informations que vous transmettez. Alors, ma question sur l'intelligence artificielle est la suivante. Quelles sont les avancées récentes dans les réseaux de neurones profonds qui ont permis des progrès significatifs en matière d'intelligence artificielle ? Et quelles sont donc les applications potentielles de ces avancées dans notre société ? Merci beaucoup pour votre réponse, Luc. À bientôt.
Alors, merci de cette question qui est une question très technique. Donc, je vais y répondre rapidement parce que là aussi, il faudrait une émission complète. Je vais quand même définir le terme que vous utilisez. Vous utilisez la notion de réseau de neurones profonds. Donc, ça, c'est le must un petit peu de l'intelligence artificielle. C'est une technique qui consiste à essayer d'imiter le mode de fonctionnement du cerveau humain en créant en réalité des strates de logiciels, donc en imitant un petit peu le cerveau. Et donc on crée des couches superposées d'IA qui vont venir analyser un problème. Donc c'est comme ça que fonctionne le cerveau. Quand vous croisez par exemple une personne, pour la reconnaître, votre cerveau, il a une première couche qui est un espèce de visage basique, avec un corps basique, et ces premières couches, c'est ça, donc il reconnaît que vous êtes un humain, et puis deuxième couche, on va affiner en analysant les yeux, puis ensuite la bouche, etc. Et ces couches superposées d'analyse vont permettre d'avoir une identification de si vous reconnaît, de qui vous êtes, si vous a déjà croisé. Donc on essaie de reproduire ça au niveau de l'IA. Je n'ai pas connaissance des dernières avancées, parce que là, pour le coup, il faudrait évidemment se renseigner, et puis les choses vont très très vite. Mais c'est juste une technique, une technologie qui est un peu le must de l'IA, mais ça reste quand même un fonctionnement qu'on a déjà expliqué. Simplement, au lieu d'avoir un logiciel sur une base et une ligne finalement d'analyse, bah, c'est une couche, des couches superposées avec une technologie qui va permettre à certaines couches de prendre le pas sur d'autres pour pouvoir affiner, grâce au machine learning d'ailleurs, l'analyse qui est faite des données qu'on lui transmet. Voilà, je ne m'appesantis pas sur cette question qui est, ma foi, technique et complexe.
Mais peut-être qu'on pourra y revenir lors d'une prochaine émission et répondre un peu plus complètement à Marité. Qu'est-ce que tu en penses ?
Pourquoi pas ?
On va laisser passer un peu de temps comme ça. Les choses vont aussi évoluer et on y reviendra. Merci Marité en tout cas pour cette question. Il m'en reste deux, si tu veux bien Luc. Une question de Patrick.
Allons-y.
Allez, on l'écoute.
Une question, à mon avis, essentielle suite à l'émission de Luc à propos de l'intelligence artificielle. Peut-elle contribuer à l'égalité entre les êtres et à l'inverse, pourrait-elle constituer un danger pour l'humanité ?
Alors, merci Patrick pour cette question sur la question de l'égalité entre les êtres. Et ma réponse va être assez courte. L'IA, c'est un outil. Donc, ce qui rendra cet outil plus égalitaire ou pas ne dépend pas de l'outil en lui-même, mais dépend de l'action humaine, de notre volonté. Et donc, il est possible d'envisager un avenir dans lequel, totalitaire, dans lequel quelques-uns dirigent le monde et d'autres subissent, et dans ce cas-là, il n'y aura évidemment pas d'égalité, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle sera réservée à certains et pas à d'autres. À partir de là, on ira vers un monde inégalitaire. On peut penser, quand même, que compte tenu de l'utilisation qui en est faite, qui est quand même à visée économique, un maximum de personnes sur Terre profiteront des avancées techniques et technologiques des IA. Et donc, si la démocratie perdure et que donc les régimes totalitaires ne prennent pas le pas, donc si nous décidons tous ensemble de répartir la richesse qu'est l'IA, oui, nous irons vers un monde plus égalitaire. Sinon, non. Voilà pour ma réponse.
Merci Patrick et merci Luc pour ta réponse. Et je te propose de terminer avec Tom. Alors Tom qui nous a appelé d'Angleterre, figure-toi, pour poser sa question. Je laisse l'écouter.
D'accord.
Bonjour Luc. Comment pouvons-nous garantir la transparence et la responsabilité des systèmes d'intelligence artificielle, notamment lorsqu'ils prennent des décisions critiques dans des domaines tels que la médecine, la finance ou la justice ? Merci Luc.
Alors merci Tom, parce que là, pour le coup, c'est une question non seulement intéressante, mais il se trouve que c'est une question qui m'intéresse maintenant depuis plus de 15 ans. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est en fait une question juridique, là, ici. On touche à la question de la responsabilité des intelligences artificielles. Il faut savoir que l'Union européenne y travaille maintenant, j'ai envie de dire presque depuis 15 ans, 15 ou 17 ans. Et donc on a déjà des débuts de réponse. Alors en fait, la responsabilité, tout le monde connaît le Code civil. Il y a l'ancien article 1382, 1240 aujourd'hui du Code civil qui nous dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc ça, c'est le seuil dans notre Code civil français de la responsabilité, en gros, qui casse paye, quoi, si je réduis les choses. Derrière ce texte, Il y a une notion à l'origine, hein, donc le code date de 1804, une question de faute. C'est-à-dire il faut d'abord qu'il y ait une faute et ensuite qu'il y ait un dommage, et il faudra établir devant la justice non seulement la preuve de la faute, non seulement la preuve du dommage, mais aussi le lien de causalité entre la faute et le dommage. Donc ça, c'est le droit tel qu'on le connaît depuis 1804. Mais avec les évolutions des machines, l'évolution du commerce également, et dernièrement l'évolution de l'intelligence artificielle, et on a tous en tête la possibilité d'avoir une voiture demain qui roule toute seule, si elle roule toute seule et qu'elle a un accident, qui est responsable? Est-ce que c'est le propriétaire? Ce n'est plus le conducteur puisqu'elle roule toute seule. Est-ce que c'est donc le propriétaire? Est-ce que c'est le concepteur de la machine ou autre? Bon. Et donc, c'est développé depuis maintenant presque 40 ans, en fait, hein, toute une théorie, dans le droit de la consommation notamment, de responsabilité sans faute. Donc, on va vers quoi? Eh bien, vers cette notion de responsabilité sans faute. Donc, on a déjà dans le corpus européen, juridique européen, un certain nombre de textes qui vont vers deux sens. Donc, le premier que je viens d'évoquer, c'est-à-dire une responsabilité sans faute, autrement dit, il y aura responsabilité à partir du moment où l'usage d'une IA aura causé un dommage. Encore faudra-t-il démontrer la faute, le lien de causalité vers le dommage. Mais on va aussi vers une forme de mutualisation, d'assurance autour de l'utilisation des IA. Je pense notamment aux véhicules autonomes. On est en train de mettre en place tout doucement un système dans lequel nous serons assurés et on va tous payer en cas de dommage lié à l'utilisation de ces nouveaux systèmes, parce qu'il est évidemment à terme hors de question de faire porter le chapeau au concepteur et encore moins au propriétaire, parce que le propriétaire ne maîtrisant pas l'outil puisqu'il est autonome, ça va être compliqué de dire vous êtes responsable d'eux. Donc ce sera son assurance et pas lui en propre qui seront responsables de la chose. Donc c'est pareil avec les IA qui sont déjà utilisées en médecine, hein. C'est l'assurance qui paiera le dommage, la responsabilité étant, je le répète, sera probablement définie demain comme étant une responsabilité sans faute, juste une responsabilité liée à l'usage de la chose, liée au défaut de conception éventuellement. Alors s'il y a défaut de conception encore, là on pourra remonter éventuellement au concepteur, mais ce serait vraiment le seul cas où on pourrait remonter vers le concepteur. Bon, tout ça étant encore en gestation, il y a déjà des avancées, hein, très fermes qui sont faites. Est-ce que demain on ira vers un code de l'IA? Je ne crois pas, on ira probablement plus vers des accords internationaux qui établiront, qui seront ensuite retranscrits dans le droit soit national, soit européen. Voilà pour ma réponse, qui est partielle encore une fois, mais parce que aujourd'hui encore, on n'est qu'aux prémices, au début de l'utilisation de ces intelligences artificielles. Comme toujours dans la construction du droit, il faudra peut-être attendre un ou deux procès d'importance marquants pour faire évoluer le droit dans ces domaines-là.
Bon, dis-moi Luc, c'était une émission riche, tant par les questions, et je remercie nos internautes de nous les avoir posées, de les avoir enregistrées, puisqu'ils ont fait ça tout seuls comme des grands, ils nous les ont envoyées. Nous sommes en direct, mais pas eux, et également pour tes réponses qui sont toujours très pertinentes et extrêmement intéressante. Et c'est vrai qu'on a toujours envie d'en savoir plus. Hein. Faudra en reparler de tout ça.
Oui, alors c'est très intéressant, mais alors, je t'avoue un peu frustrant parce que comme je découvre les questions, j'y réponds probablement de façon incomplète et j'ai envie de passer 3 heures à vous répondre en réalité. Mais bon.
Voilà. Et puis, on ne peut pas toujours le faire, mais bon, de toute façon, c'est le genre de sujet qui reviendra sur le tapis, si j'ose dire, forcément l'année prochaine. Ouais.
Si je peux conclure quand même, j'ai entendu dans beaucoup de questions finalement de l'inquiétude. Alors cette inquiétude, elle est légitime, mais il faut remettre ce qu'est l'intelligence dans son juste contexte. L'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui, et ça le restera pour encore très longtemps, simplement un outil. Il ne faut pas le prendre au-delà de ce qu'il est. Ça va impacter, bien sûr, notre vie comme ça l'impacte déjà. On répond à des intelligences artificielles quand on va sur des sites Internet. On répond à des intelligences artificielles parfois au téléphone ou même pour ceux qui ont des box à domicile. Vous parlez à votre intelligence artificielle quand vous lui dites « Alexia, veux-tu bien me mettre telle musique ?» C'est une intelligence artificielle. Donc, tout ça pour dire que c'est déjà présent. Ce sont des outils. Comme pour tout outil, il faut se poser la question de l'éthique autour de l'utilisation de cet outil. Alors, c'est pas non plus une arme nucléaire. Peut-être que ça pourrait l'être au niveau sociétal, peut-être que ça pourrait l'être au niveau des emplois, Mais comme toujours dans ces cas-là, l'outil doit servir l'homme et donc charge à l'homme, au travers des lois, au travers des règlements, d'encadrer l'utilisation de ces outils.
Effectivement, c'était une bonne conclusion en tout cas. Je te remercie infiniment d'avoir répondu à nos auditeurs et de nous avoir éclairé sur ces questions très précises. Merci beaucoup, Luc. Rendez-vous en septembre pour une nouvelle tournée. Et je te propose la date du 27 septembre 2023 pour redémarrer cette année scolaire 2023-2024. C'est bon pour toi ?
Oui, avec plaisir. Enfin, sauf si tu me remplaces par une intelligence artificielle.
Ah, mais ça, c'est une idée. Je vais y réfléchir. Donc, chers auditeurs, vous verrez si c'est Luc, toujours dans l'actu tiède. En même temps, c'est son émission, c'est pas la mienne. Hein. Ou alors, si c'est Luc, l'intelligence artificielle, qui répond. Hein. Nous verrons. Ou alors, nous mixons. Tiens, on fera des petits jeux. Ça pourrait être drôle. Merci beaucoup, beaucoup, Luc. Passe un bel été. On se retrouve de tout temps en septembre. Et je te remercie encore pour cette année d'émission qui était vraiment intéressante et passionnante.
Bah, écoutez, chers auditeurs et Armel, passez également un bel été, reposant et chaud.
Oui, tout à fait, ça va être ça. Merci Luc, à très bientôt.
Au revoir.
Vous écoutez Radio Aramigo.
You can run on for a long time. Run on.